Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Alors, Malachie 3.1. Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui arrive, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et une seconde lecture dans Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Et puis le troisième texte qui fera l'objet de la prédication de Timothée, dans Marc 1, les versets 1 à 13. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Jean parut. Il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi ». Et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. À cette époque, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient.
Sans chaleur, tout est figé. Je pense qu'en pont de Martel, on sait que quand il fait froid, c'est gelé. Et sans la chaleur du Saint-Esprit, notre cœur est figé. Il est gelé, incapable de saisir ce que Dieu veut nous dire dans sa parole. Nous comptons donc sur le feu de l'Esprit pour nous réchauffer le cœur et nous permettre de saisir la parole de Dieu. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu qui s'est révélée à nous par près de 40 auteurs différents sur une période de temps d'environ 1500 ans. C'est des choses qui nous dépassent, mais que Dieu a permises. Et pour bien comprendre ce livre, il faut saisir que le centre, le point focal vers qui ou bien vers quoi tout se dirige, c'est Jésus-Christ. La Bible est partagée en deux grandes parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament annonce et prépare la venue de Christ, et le Nouveau Testament nous l'explique et nous donne aussi la signification. Le Nouveau Testament est la clé pour comprendre l'Ancien Testament, qui nous donne des images très fortes du vécu du peuple d'Israël, pas pour que nous allions commencer à combattre physiquement actuellement. Christ est mort à la croix, et Dieu s'occupera du jugement, mais pour que nous combattions contre les pouvoirs, contre les dominateurs, contre les ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes, c'est-à-dire spirituellement. Le chrétien a reçu une nouvelle nature, et c'est dans cette nature-là qu'il va combattre. Et le Nouveau Testament commence par 4 témoignages de la venue de Jésus-Christ sur cette terre qui est le centre de l'histoire de l'humanité. Juste en passant, je trouve quand même assez génial comme Dieu a permis que tout le monde dit que c'est le centre de l'humanité, vous saviez ça? Parce que toutes les dates que l'on donne, c'est avant et après Jésus-Christ, donc c'est le centre. C'est une œuvre de Dieu, c'est pas l'homme qui a inventé ça. Dieu permet que nous nous rappelions que Jésus-Christ est le centre de l'histoire de l'humanité. Et c'est l'évangile écrit par Marc qui nous intéressera donc dans ces derniers dimanches du mois. Et ce sont les premiers mots de cet évangile qui ont été choisis pour titre de cette prédication. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Or, évangile, que signifie ce mot évangile? Évangile, que veut dire évangile? Vous osez répondre. Bonne nouvelle, good news, exact. Bonne nouvelle, c'est un mot grec en fait. C'est comme si je disais good news, ça veut dire quoi? Bah bonne nouvelle, évangile, bonne nouvelle, d'accord? Et nous allons voir ce matin trois choses concernant cette bonne nouvelle. La première, c'est que c'est une bonne nouvelle qui a été écrite. Deuxièmement, que c'est une bonne nouvelle qui a été préparée. Et troisièmement, que c'est une bonne nouvelle qui a été identifiée. C'est les trois choses qu'on va voir ensemble ce matin. Et elle a été écrite, préparée et identifiée. Alors commençons par une bonne nouvelle écrite. Alors je vous invite à avoir l'évangile selon Marc ouvert devant vous, puisque nous allons le lire. Et lisons le premier verset. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Juste une question. Qui a écrit ça? Qui a écrit cela? Que Marc? C'est qui Marc? On va voir cela. Mais qui est l'auteur de l'évangile? L'auteur du deuxième évangile de nos Bibles est clairement identifié. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, car Jésus avait dit à ses disciples, « Le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera et vous rappellera toutes choses de tout ce que je vous ai dit. » C'est le Saint-Esprit, c'est lui qui a rappelé tout cela. C'est lui l'auteur de ce deuxième évangile. Mais qui a écrit ces lignes? Qui a-t-il inspiré? À qui a-t-il enseigné et rappelé ce que Jésus a dit? Alors, vous pouvez chercher dans tout l'évangile selon Marc, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom parce qu'on veut mettre Jésus-Christ en premier. C'est Jésus-Christ de qui on parle. C'est pas de l'auteur, enfin de l'écrivain. Mais dès les premiers siècles, il était très clair que c'était Marc, dont le nom juif était Jean. Et parmi les témoignages dans ce sens, je prendrai celui de Papias, qui a écrit en 140. Ça fait longtemps, hein. C'est l'an, pas 1140, pas 2140, mais 140. Et il a écrit quelque chose que quelqu'un lui avait dit qui a vécu avant lui. Donc, c'est-à-dire au moment de l'écriture de Marc ou très très proche. Et voici ce qu'il dit. Marc, devenu l'interprète de Pierre, rédigea avec soin, mais non dans l'ordre, tous les souvenirs de Pierre concernant ce que le Seigneur avait dit ou fait. En effet, Marc n'avait ni entendu ni suivi le Seigneur. Plus tard, je l'ai dit, il accompagna Pierre qui enseignait suivant les besoins du moment et non dans le dessein de rapporter systématiquement les discours du Seigneur. En écrivant ses souvenirs, Marc ne commit pas d'erreur car il visa à ne rien omettre de ce qu'il avait entendu et à ne rien affirmer qui ne fût vrai. Et en fait, il n'y a aucune raison de douter de cela, parce que tous les témoignages sont unanimes à ce propos. Mais est-ce qu'on connaît ce Marc? Connaissons-nous ce Marc qui est en fait, ou connaissons-nous ce Jean qui est surnommé Marc? Marc, c'est son nom romain, Jean, c'est son nom juif, hein, comme ça, on est au clair. Eh bien, la Bible nous en parle pour la première fois, lorsque Pierre est emprisonné par Hérode. Vous vous souvenez de l'histoire? Pierre emprisonné par Hérode, il est dans la prison, des chaînes, etc. Un ange le délivre, il sort de prison. Et là, dans la rue, il est dit, dans Actes 12, verset 12, après réflexion, Pierre se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc. Ah ben voilà. Où un certain nombre de personnes étaient réunies et priées. La mère de Marc habite une maison dans laquelle Pierre a l'habitude de se rendre. Donc Marc avait l'habitude de voir Pierre. Est-ce qu'il prenait des notes quand Pierre racontait tout ce qu'il avait vécu avec le Seigneur? Comme certains prennent des notes durant le culte. Nous ne le savons pas. Mais c'est pas impossible. Marc est le cousin de Barnabas aussi. Ça c'est Colossiens 4 qui nous le dit. Hein. C'est le cousin de Barnabas et il a accompagner Paul et Barnabas dans leur premier voyage. En fait, ils l'avaient pris de Jérusalem quand ils étaient amenés de l'aide lors de la famine à Jérusalem. Ils avaient pris Marc avec eux pour les aider, parce que c'était une aide précieuse pour eux. Et lors du premier voyage, eh bien, Marc était rentré à la maison au milieu du voyage. Ensuite, il était reparti avec Barnabas
pour évangéliser Chypre.
Et Paul, qui n'avait pas aimé que Marc les quitte lors du premier voyage, était parti avec Silas pour le deuxième voyage. Juste une chose, c'est vrai que là, il y a eu un consensus, un contentieux entre deux personnes, entre Paul et Marc. On se dit, mais ça se fait pas parmi les chrétiens. Ça peut arriver. Mais parmi les chrétiens, il y a toujours réconciliation. Et nous voyons ici que Paul, par la suite, inclut Marc avec lui quand il donne des salutations. Tout à coup, il est avec lui. Et même, il dira à Timothée plus tard que Marc lui est fort utile pour le service. Vous pouvez regarder dans 2 Timothée 4, 11. Hein. Il dit à Timothée, « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le service. » Mais même s'il a accompagné Paul, s'il a vu l'Évangile se répandre, c'est en fait avec Pierre qu'il est le plus proche. Et pourquoi j'ose dire cela? Parce que la Bible nous en parle. En fait, c'est Pierre lui-même qui nous dit cela dans 1 Pierre 5, verset 13, quand il salue hein, les personnes à qui il écrit, il dit que l'élu qui est à Babylone vous salue, donc il est probablement à Rome, de même que mon fils Marc. Pour Pierre, Marc, c'est pas juste un collaborateur, une aide ou une connaissance ou le fils de Marie chez qui il allait, il le considère comme son fils, comme Paul considérera Timothée comme son fils. Son fils spirituel. Pierre le présente ainsi, donc Marc est si proche de Pierre qu'il est bien placé pour transmettre le témoignage de cet apôtre qui est très direct. Pierre, il est très direct, il va au but dès le début. Eh bien, l'évangile de Marc est aussi très direct et il va au but dès le début. Le caractère de Pierre se voit dans tout l'évangile selon Marc. Marc est si proche de Pierre qu'il est bien placé pour transmettre le témoignage de cet apôtre très direct qui va droit au but dès le début. Et l'évangile selon Marc est direct, il va au but dès le début. Il commence pas par faire une grande introduction, il dit « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu ». Voilà, et c'est le résumé de tout l'évangile de Marc en fait. Droit au but. Marc ne met pas Pierre en avant durant tout l'évangile de Marc. Mais il met Jésus-Christ, comme Pierre devait le faire dans ses enseignements. Il l'avait appris, Pierre. Il connaissait un peu son histoire. Il l'avait appris. C'est Jésus-Christ qu'il faut mettre en avant, c'est pas soi-même. Plusieurs exploits de Pierre, par exemple, ne sont pas rapportés dans l'évangile selon Marc. Pierre qui a marché sur les eaux. Non, franchement, si vous avez marché sur l'eau, vous aimeriez bien que tout le monde le sache. Eh ben non, c'est pas dans Marc. Parce que lui, il voulait que tout le monde sache que Jésus-Christ était celui que l'on devait suivre. Et Marc a plutôt souligné les faiblesses de Pierre. Pierre n'avait pas de problème à parler de ses faiblesses. Pourquoi? C'est pas parce qu'il aimait parler de ses faiblesses. C'est parce qu'il aimait parler de la grâce de Dieu, qui venait le rechercher même dans ses faiblesses. Marc, en fait, soulignera assez souvent aussi l'incrédulité des disciples, qui permet aussi de comprendre que c'est pas possible que les disciples aient inventé quelque chose pour lequel ils n'arrivaient pas du tout à croire. Certains disent, oh, c'est les disciples qui ont inventé tous ces trucs de Jésus, qu'il est mort, etc. Mais non, pas du tout. Ils étaient eux-mêmes incrédules très longtemps. Et dernier élément qui marque aussi ce lien avec Pierre, Marc utilise très souvent un terme dans son évangile, c'est le terme aussitôt. Aussitôt. Comme si les choses se passaient très vite. En fait, ça manifeste plutôt le caractère de Pierre qui, tac, il en parle. Hein, on verra, là, Jésus, il se fait baptiser et aussitôt, il est dans le désert. Mais bon, il y a eu du temps qui s'est passé. Mais pour Pierre, lui, il voulait en parler, là, tac, tac, tac. Hein? Et ça manifeste aussi ce caractère qui veut nous faire aller directement aux choses essentielles. Mais Marc veut souligner surtout le message central de la prédication de Pierre. Et si vous prenez Marc au milieu, allez, prenez Marc au milieu, il y a 16 chapitres, faut prendre le chapitre 8, 16 divisé par 2, ça fait 8. Hein? Pour l'instant, c'est encore comme ça. Donc, Marc 8 et le verset 29, c'est le centre de l'évangile qui dit ceci. « Mais vous leur demanda-t-il, c'est Jésus qui parle, qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » Et c'est son message. C'est le message de l'évangile de Marc. Il est Christ et c'est au centre de l'évangile. Et c'est cela qui a été mis par écrit. Si on revient au premier chapitre, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Est-ce que vous utilisez le terme évangile dans le langage courant? Est-ce que la semaine passée, vous avez utilisé ce mot dans le langage courant? J'imagine que non. Mais, par exemple, à la fin de la guerre mondiale, quand elle s'est terminée, ceux qui étaient sous l'oppression et souffraient l'occupant ont crié « Évangile, évangile, évangile !» En fait, ils ont dit « Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle !» Nous allons être délivrés, ou nous sommes délivrés. C'est ça, la bonne nouvelle. Bon, vous connaissiez l'étymologie, mais enfin, la signification du terme, c'est vrai, bonne nouvelle. Mais on va pas dire, j'ai un évangile pour toi. Il dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Mais c'est le même terme, en fait. Hein? Une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Marc, c'est Jésus le Messie. Messie veut dire Christ, hein, en grec, est venu. Et celui qui était annoncé pour venir nous sauver, le roi messianique, a vécu comme un serviteur souffrant. Ça pourrait être le résumé de cet évangile selon Marc, qui dit ceci, Jésus est le roi messianique, le fils de Dieu, qui a vécu comme un serviteur souffrant. Jésus-Christ est le roi messianique, le fils de Dieu, qui est venu vivre comme un serviteur souffrant, qui est venu proche de nous. L'évangile, c'est pas l'annonce de rituels. C'est pas une religion à suivre pour savoir comment est-ce qu'on peut gagner le salut. Non, c'est une personne. C'est Jésus-Christ qui est venu, qui s'est approché de nous. Le premier verset de l'évangile annonce comment la bonne nouvelle commence. Et chacun qui a été transformé par l'évangile ici parmi nous peut dire aussi que l'évangile a commencé une fois aussi dans sa vie à agir. Et elle a été préparée. L'évangile est préparé dans nos vies, vous pouvez voir dans toutes vos vies. C'est préparé. Et si vous ne connaissez pas encore l'évangile, eh bien il est en train de le préparer. C'est notre deuxième point qu'il souligne. Lisons comment cette bonne nouvelle est préparée selon Marc. C'est dans Marc, chapitre 1, les versets 2 à 8. Donc, verset 1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Selon qu'il est écrit dans le prophète Ésaïe, « Voici, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Jean parut. Il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Je ne mérite pas de délier en me baissant la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. » Marc écrit à des gens qui sont à Rome et qui sont conscients qu'un roi ou un empereur n'arrive pas à l'improviste sans se faire annoncer. Si quelqu'un arrive à l'improviste sans se faire annoncer, c'est que c'est pas quelqu'un d'important. C'est l'idée qu'ils en ont aussi à Rome. Et Marc veut que chacun comprenne que Jésus est le monarque divin, qu'il a la toute puissance. Et voici comme il le démontre. Il cite deux textes de l'Ancien Testament pour dire que Jésus ne vient pas de nulle part. Il arrive pas comme ça de nulle part. Ça a été préparé longtemps à l'avance. Et quelqu'un qui peut dire 300-400 ans avant que quelqu'un va arriver, c'est que Dieu. Vous pouvez pas dire, vous, dans 400 ans ce qui arrivera, et personne n'a pu dire ce qui vous arrive maintenant, à part Dieu. Dans l'Antiquité, la préparation du chemin sur lequel le roi ou l'empereur allait venir était important. Aucun débris, aucune boue, ou quoi que ce soit qui pourrait l'encombrer, ne devait être sur son chemin. C'est évident, non? Eh bien, Jean-Baptiste est celui qui préparait le chemin du roi messianique et il avait pour mission de nettoyer le cœur. Jean-Baptiste, celui qui préparait le chemin du roi messianique, avait pour mission de nettoyer le cœur parce que c'est là que le roi était censé trouver un chemin ouvert et sans obstacle. C'est dans le cœur. Il a dit que Jean prêchait le baptême de la repentance pour la rémission des péchés, pour le pardon des péchés, pour être délivré de ses péchés. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin pour être prêts à accueillir le roi de gloire par qui et pour qui nous avons été créés. Si je vous dis, bon, je vais prendre le président de la Confédération, parce que c'est la personne la plus haute politique en Suisse, vous pouvez prendre la personne la plus haute que vous voulez, mais si je vous dis que le président de la Confédération va venir chez vous, là, est-ce que vous ne prépareriez pas sa venue? Est-ce que vous ne mettriez pas un peu d'ordre dans vos affaires? Vous feriez en sorte que tout soit nettoyé? Vous voulez honorer cette personne? Vous voulez qu'elle se sente accueillie? Vous voulez pas lui donner de l'eau dans un verre sale et dégoulinant de moisissures? Ah. Vous Vous voulez pas qu'ils prennent un café dans une tasse où s'accroche un fruit décomposé qui sent l'œuf pourri? Avez-vous déjà menti? Volé? Critiqué méchamment? Calomnié? Envié? Triché? Exagéré pour vous faire mieux voir? Était jaloux de ce que l'autre recevait? Méprisé parce que qu'il n'était pas de votre avis? Ou dédaigné parce que il ose dire quelque chose de négatif sur ce que vous faites? Vous pourrez continuer la liste encore longtemps et décrire toute cette crasse dans notre cœur. Il faut que tout cela soit nettoyé si nous voulons inviter le roi de gloire qui nous donne la vie éternelle, qui libère, soulage de nos souffrances pour l'éternité. Et le moyen de préparer ce nettoyage, c'est la reconnaissance de notre péché, c'est voir cette saleté. Parce que celui qui ne le voit pas, il ne nettoie pas. Reconnaître notre péché, d'avoir le regret d'avoir commis le péché, le désir sincère de s'en détourner et d'appeler au seul qui peut nettoyer notre cœur, non pas avec de l'eau. Oui, c'est vrai, le baptême était avec de l'eau, mais c'est pas l'eau qui nettoie le cœur, mais avec l'Esprit Saint. Celui qui vient après moi vient avec l'Esprit Saint. Avec l'Esprit Saint qui applique l'œuvre de salut en Jésus-Christ. Il est possible d'avoir un chemin prêt pour la venue du roi de gloire, qui va d'ailleurs bientôt revenir entre nous. Il va revenir. Jésus est ressuscité, il est monté au ciel, c'est un fait historique. Et Jésus va revenir, ce sera aussi un fait historique. Seras-tu prêt? Auras-tu écouté tes Jean-Baptiste qui crient dans le désert, préparez le chemin du Seigneur? As-tu préparé le chemin? Jean-Baptiste pouvait proposer un nettoyage extérieur avec l'eau, qui manifestait publiquement de cette confession de péché, de cette repentance. Mais la bonne nouvelle n'était pas que cette eau qui ne pouvait qu'être un symbole. La bonne nouvelle, c'est l'évangile, c'était que quelqu'un viendrait baptisé du Saint-Esprit, qui seul a le pouvoir de nettoyer réellement notre cœur et de le remplir de ce qui est bon, afin d'être prêt à accueillir le roi des rois. Mais qui est celui qui va baptiser du Saint-Esprit? Bien, Marc, qui est aussi direct que Pierre, ne tourne pas en rond. Lisons la suite, les versets 9 à 13. Une bonne nouvelle identifiée. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il passa dans le désert 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. C'est Jésus de Nazareth. Pourquoi il dit Jésus de Nazareth? Parce qu'il veut pas qu'on se trompe. C'est bien lui qui vient de ce lieu-là. Et puis les Romains qui habitent à Rome, Nazareth, ils y connaissent rien. Il dit, ben alors c'est en Galilée. Voilà, c'est bon là, vous voyez, un lieu géographique. Hein. Donc Jésus de Nazareth en Galilée, il est précisément donc désigné. Et Jésus est baptisé. Alors Marc ne nous explique pas que Jésus, qui est sans péché, se fait baptiser parce qu'il se soumet au baptême des pécheurs pour préparer qu'il va se soumettre à la mort du pécheur. Mais il dit ce qui se passe quand il sort de l'eau. Le ciel s'ouvre. Regardez dans ce texte écrit. Hein, le ciel s'ouvre et littéralement, il est dit qu'il se le ciel se déchire. Si on prend le texte. Il se déchire. Eh bien, c'est le même terme que Marc utilisera au chapitre 15, verset 38, lorsqu'il parle du voile qui se déchire dans le temple quand Jésus meurt sur la croix. Et en fait, ce voile déchiré dans le temple, c'était la signification que l'homme pouvait maintenant s'approcher de Dieu par l'œuvre de Jésus-Christ, qui n'avait plus besoin de faire des sacrifices d'animaux. Et en fait, dès le début du ministère de Jésus, Pierre, il veut dire, voilà, c'est ça qui arrive. C'est, le ciel se déchire littéralement dans cette compréhension-là pour l'inauguration divine du ministère de Jésus et l'approbation publique de Dieu. Parce que tout le monde a entendu cette voix, pas seulement Jésus. Tous ceux qui étaient là l'ont entendu. Tu es mon Fils bien-aimé. Et il y a une façon visible aussi qui était là. Alors là, j'aimerais juste faire une toute petite parenthèse. le Saint-Esprit n'est pas un oiseau, n'est pas une colombe. Et d'ailleurs, quand on dessine une colombe, ou bien dans les films, une colombe qui descend sur Jésus, c'est faux, parce que c'est écrit comme une colombe. Parce qu'on ne peut pas décrire, en fait. Il y a eu quelque chose de visuel, et on simplement dit comme une colombe, parce qu'on n'a pas vraiment de mots pour le décrire. Et ça, c'est juste important, c'est la petite parenthèse, mais important que vous le gardiez aussi. Hein? Ça peut être un symbole qui nous rappelle l'esprit, c'est vrai, mais ce n'était pas un oiseau, donc ça c'est très important. Hein? Simplement, c'est la manière dont il est descendu sur Christ pour qu'on tout le monde voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Et en fait, Jean-Baptiste a compris que c'était l'Esprit Dieu, lui avait dit, « Quand le Saint-Esprit descendra !» Il ne sait pas comment ça allait se manifester. Mais nous non plus, on ne sait pas comment Jésus va se manifester quand il viendra. Mais ce que je vous assure, c'est qu'on le reconnaîtra. Ça sera clair, tout simplement. Et ça l'a été aussi pour eux. Et non seulement il y a quelque chose de visible, mais il y a une voix audible. Alors moi, je ne sais pas comment est la voix de Dieu. Mais je suis sûr qu'elle est reconnaissable. Je suis sûr que si Dieu parle à voix audible ici ce matin, vous savez que c'est lui qui parle. Et tous ceux qui étaient là ont pu entendre et voir. Il a été appelé fils bien-aimé, objet de mon affection. Celui qui reçoit l'affection de Dieu, vous imaginez ? Bon là, je fais aussi un petit déjà très loin. Mais celui qui est en Christ reçoit la même affection. En Christ, l'affection de Dieu. Donc les Romains croyaient que l'empereur était béni des dieux. Et même qu'il était un être élevé au rang de Dieu. Mais Jésus n'est pas simplement béni. Il est appelé fils bien-aimé, objet de l'affection du Créateur souverain. C'est Jésus-Christ. Et aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. C'est Pierre qui est là. Allez, maintenant on va parler de ça. Hein? Or, Marc nous présente le roi messianique. Là, on voit que Dieu, quelque part, dit, mais il est divin. Et il parle aussi de ce serviteur souffrant. Jésus passe par l'épreuve. Marc n'explique pas en détail ce qui se passe, mais en fait, ce qu'il donne est suffisant pour comprendre. Bon, après, faut justement chercher à comprendre. C'est ce qu'on va faire ensemble. Il y a quatre choses ici qu'il dit. Jésus est dans le désert 40 jours, ce qui signifie qu'il est mis dans une situation physiquement difficile et sans ressources. Le désert, il n'y a pas de ressources, ça signifie cela. C'est difficile. Jésus a été mis dans une situation difficile et sans ressources. Deuxièmement, Satan le tente. Et nous savons que quand Satan tente, il ne cherche pas le bien de la personne qu'il tente. Jamais. Jamais. Même s'il nous fait croire le contraire, bien évidemment. Jamais. C'est un trompeur. Et Jésus a subi une réelle épreuve. C'était pas du chiquet, c'était vraiment Satan qui lui voulait du mal, qui le tentait. Troisièmement, Jésus était complètement isolé de tout secours humain. C'est ce que signifie cette petite phrase, il était avec les bêtes sauvages. On dit, pourquoi c'est écrit là? C'est que Marc qui dit ça. C'était pour signifier que là où il y a des bêtes sauvages, il n'y a pas d'être humain. Il n'y a aucune aide possible pour Jésus-Christ. Peut-être que Marc faisait aussi le lien avec les bêtes sauvages dans l'arène, puisque à Rome, malheureusement, bien des chrétiens ont été mis dans des situations où ils étaient face à des bêtes sauvages. Pour manifester que Jésus avait vécu les assauts du mal. Et quatrième élément, c'est très court ce qu'il dit. Il dit « les anges le servaient ». Mais c'est une bonne nouvelle. C'est que Jésus n'a pas succombé à la tentation. Parce qu'en fait, le service des anges est un signe de l'approbation de Dieu à son égard. Puisque les anges sont au service de Dieu. Ces êtres totalement dévoués à Dieu le servaient. Ce qui signifie que Jésus n'avait pas succomber à la tentation. C'est une excellente nouvelle, cette petite phrase. Celui qui venait d'être approuvé par Dieu a été de taille pour affronter l'ennemi. Jésus a été tenté comme nous à tous égards. Êtes-vous tenté, vous, de faire le mal? Qui n'est pas tenté? Non, je vais pas faire ça. Je vais pas vous faire lever la main. Ben, je suis sûr que c'est pas vrai. Nous sommes tous tentés de faire le mal. Et Jésus l'a été à tous égards, et j'ose dire qu'il a été tenté au-delà de ce que nous sommes tentés. Parce que si lui tombait, eh ben, c'en était fait d'humanité. Il comprend nos situations. Il compatit dans nos situations difficiles. On dit, mais Seigneur, j'arrive pas à faire autrement. Cette tentation est tellement forte. Je vous assure qu'il en a eu d'aussi fortes. Mais jamais il nous encouragera à céder à la tentation. Mais il nous accompagnera. Il dit, oui, c'est dur, c'est souffrant. Il n'a jamais cédé. Et ça, c'est pour nous une force face à la tentation. Et également lorsque nous péchons, pour revenir à Dieu. Parce que Satan, quand on pêche, justement quand on sait la tentation, il dit, ben voilà, c'est fait, t'as péché, c'est fini, je suis ton maître, tu dois m'obéir. Hein, et en fait, tu peux plus aller vers Dieu, franchement, la 1453e fois. Non, tu peux plus aller vers Dieu. Et là, c'est ce que nous pouvons dire, mais mon Sauveur et mon Seigneur n'a jamais cédé devant toi. Jamais. Les anges qui le servaient le prouvent et tu le sais. Jésus a payé pour moi. Jésus a payé pour moi. Je me repens de mon péché et je crois dans son œuvre parfaite. Je suis racheté et Satan n'a ainsi aucun pouvoir sur moi. Ça, c'est parce que Jésus n'a pas cédé à la tentation. Jésus a payé pour moi. Je me repens de mon péché et je crois dans son œuvre parfaite. Je suis racheté et Satan n'a ainsi aucun pouvoir sur moi. Et si nous pouvons mettre le pronom personnel « moi et je » de tout cœur, c'est une réalité. Le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu dans nos vies, c'est lorsque nous confessons nos péchés et ayant reçu le baptême de l'Esprit, nous en sommes purifiés. C'est le commencement. Pourquoi le commencement? Parce qu'ensuite on continue à se repentir et à croire à l'œuvre de Christ. C'est pas fini. Mais c'est ça qui est beau. C'est qu'on peut continuer à aller vers lui à tout moment. Et bien sûr, on se réjouit d'être un jour totalement libéré de ce péché. Mais dans ce temps, nous sommes ici-bas, nous continuons à vivre cette repentance dans la joie qu'il a tout accompli et qu'il n'a pas cédé à la tentation. Jésus a été tenté et il a résisté. Et comme il s'est soumis au baptême destiné aux pécheurs, il s'est soumis à la mort destinée aux pécheurs. Il a subi cette mort à ma place. Je vais en parler tout à l'heure. Il a subi cette mort à ma place. A-t-il aussi payé pour toi ? Et j'ai pu témoigner de cette mort à moi-même et ma vie en lui par mon propre baptême d'eau. Est-ce aussi le cas pour toi? Marc termine son évangile en rapportant les paroles suivantes de Jésus. C'est notre conclusion. La conclusion, c'est dans la fin de l'évangile de Marc. Vous pouvez regarder avec moi au chapitre 16, verset 15, qui dit, Jésus dit, « Allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Nous allons prier. Nous allons prier le Dieu puissant qui a envoyé Jésus-Christ maintenant. Prions. Éternel notre Dieu, on ne se rend pas toujours compte que ta parole est si sérieuse. On ne se rend pas toujours compte que ce que nous croyons est ce que tu as fait, fait toute la différence. Et j'aimerais te prier, Seigneur, ce matin, que chacun ici, nous puissions être saisis par ton esprit. Je me sens bien faible et bien maladroit dans tout ce que je dis. Mais je me repose sur toi, Seigneur, en implorant ta grâce, que ton esprit agisse dans les cœurs, dans mon cœur, dans le cœur de chacun ici, afin que celui qui te connaît ait le cœur réchauffé et se réjouisse de ton œuvre extraordinaire. Et que celui qui ne te connaît pas, qui est perdu en fait, puisse saisir cette œuvre magnifique de Jésus-Christ qui est venu ici-bas pour nous sauver. Seigneur, c'est quelque chose qui me dépasse, et je te le dis simplement. Et j'aimerais te prier, Seigneur, d'agir dans les cœurs de chacun ici, afin que personne, aucun, ne se perde. Dans le beau nom de Jésus-Christ, amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.